Les personnes qui pensent savoir quelque chose sont légion et souvent, leur science infuse les rend pénibles. C'est particulièrement vrai pour ceux qui disent avoir lu toutes les Écritures, de bien les connaître, et qui, se croyant experts en la matière, prétendent que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui du Nouveau. S'il est vrai qu'il existe effectivement des différences entre les deux testaments, celles-ci ne gomment pas leur similarité et surtout le fait qu'ils se complètent. Le livre du prophète Habacuc, par exemple, est très important dans le Nouveau Testament. Quand l'apôtre Paul a prêché dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, il a dit « Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. » Veillez donc à ce qu'il n'arrive pas ce qu'ont dit les prophètes. Puis, Paul a menacé ses auditeurs juifs de connaître un sort semblable à celui qu'Habacuc annonçait à ses contemporains, c'est-à-dire l'invasion par une nation ennemie s'il refusait le pardon des péchés que Dieu accorde au nom de Jésus. Citant un passage du livre d'Habacuc, selon l'ancienne version grec, il a continué sa prédication en disant « Regardez, homme plein de mépris, soyez dans l'étonnement et disparaissez. En effet, je vais accomplir une œuvre en votre temps, une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un venait vous l'annoncer. » Mais les Juifs de l'époque de Paul, ne voulant pas écouter la parole de Dieu, l'histoire s'est répétée. La destruction de Jérusalem par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ s'est reproduite au premier siècle de notre ère, mais par les Romains cette fois-ci. Le temple fut à nouveau détruit, la population de la Judée massacrée ou déportée et vendue comme esclave. Fidèle à lui-même, que ce soit sous le régime de l'Ancien ou du Nouveau Testament, Dieu agit selon les mêmes principes et d'une manière prévisible. Il ne prend personne par surprise. Il met le pécheur en garde, puis attend qu'il se repente. Mais s'il se cabre et raidit le coup, il est jugé. Le message central du livre d'Habacuc est une révélation que l'Éternel lui a demandé de graver sur des tablettes pour assurer sa conservation. L'apôtre Paul en cite une partie, la même, dans deux de ses épîtres quand il dit que « le juste vivra par la foi ». L'auteur de l'épître aux Hébreux, lui, rappelle ce message central dans sa totalité. Il écrit « Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste, à mes yeux, vivra par la foi. » Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Celui qui doit venir est évidemment une référence au retour de Jésus qui viendra instaurer son royaume de justice sur cette terre. C'est par cet événement glorieux que s'accomplira la promesse faite au prophète Habacuc de la venue de l'Éternel en vue du rétablissement d'un ordre juste. C'est aussi l'attente et l'espérance des croyants aujourd'hui. Le livre d'Habacuc s'ouvre sur un prophète qui est très perplexe. Parce que le mal et la violence sévissent sans retenue dans le royaume de Juda, il se demande quand cette situation cessera. Alors il décide d'aller se plaindre auprès de Dieu et lui demande « Mais pourquoi n'interviens-tu donc pas ?» À quoi Dieu répond « Je vais agir. Juda sera puni par Babylone. » Mais le prophète devient alors davantage perplexe et sa confusion se transforme en un dilemme spirituel. Il interpelle à nouveau l'Éternel et lui demande « Mais pourquoi jugerais-tu Juda avec des brutes qui sont 100 fois pires que les Israélites ?» Le premier chapitre d'Habacuc pourrait avoir pour titre « Dialogue avec Dieu ». Contrairement aux autres prophètes qui parlent aux Israélites, Habacuc s'adresse presque exclusivement à l'Éternel ou aux Chaldéens. Je commence maintenant à lire le premier chapitre. Proclamation dont l'Éternel a donné la révélation à Habacuc le prophète. Littéralement, le texte dit « l'oracle qu'Habacuc le prophète a vu ». Cette mention spécifique « le prophète » se trouve également dans le titre des livres d'Agée et de Zacharie. Cette introduction formelle signifie que Habacuc exerçait la fonction officielle de prophète de l'Éternel et qu'il était reconnu comme tel. Je continue. « Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusque à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres ?» Verset 2. Cette expression « je crie vers toi à la violence » apparaît deux autres fois dans l'Ancien Testament. Le mot hébreu pour « violence » englobe tout ce qu'on peut faire de mal à son prochain. Si le prophète Jérémie est généralement considéré comme un Saul pleureur parce qu'il maîtrisait mal ses sentiments, Habacuc s'est gardé la tête froide. Pourtant, c'était un homme tourmenté et confus à cause des actes de violence qui étaient perpétrés en Juda et qui pour lui étaient une anomalie qu'il n'arrivait pas à s'expliquer. Alors, se plaçant dans la position d'un juste attristé par ce qu'il voit autour de lui, il demande à Dieu ce qu'il attend pour agir. La perplexité d'Habacuc était due à sa compréhension de la loi de Moïse qui garantit aux Israélites des récompenses ou des châtiments temporels en fonction de leur comportement. Or, ce système ne semblait pas fonctionner. Plusieurs psalmistes ont réagi comme Habacuc et sont allés voir l'Éternel pour se plaindre à cause de leur malheur et de celui de leur peuple. Ces hommes pieux sont des exemples à suivre, car ils nous tracent le chemin en nous rappelant que tout croyant peut se rendre au trône de la grâce pour exposer ses problèmes à son Père céleste. Je continue le texte. « Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. » Verset 3. Le péché abonde et Dieu ne fait rien. Qu'un croyant pieux comme Habacuc soit tourmenté à cause de la méchanceté qu'il voit autour de lui, ça se comprend. Mais que l'Éternel, qui est parfaitement saint, soit indifférent devant les manifestations du mal est incompréhensible. Habacuc demande donc à Dieu comment il peut regarder le mal qui sévit sans intervenir. Tout comme l'explique avec force détail le prophète Michée, ce sont essentiellement les classes supérieures, c'est-à-dire les nobles, les déjà riches, les prêtres et les juges, qui pervertissaient la justice et pratiquaient la rapine. C'était la loi de la jungle, la loi du plus fort qui régnait. Ceux qui détenaient le pouvoir écrasaient les petits et Dieu n'intervenait pas. La même situation existe aujourd'hui. Et les athées s'en servent pour tourmenter les croyants en leur demandant « Comment pouvez-vous croire en un Dieu d'amour alors qu'il ne fait rien face à la méchanceté et à la corruption des grands de ce monde ? Croyez-vous vraiment qu'un Dieu parfait, bon et tout-puissant permettrait les souffrances qu'on voit, les tremblements de terre et les guerres ?» Il se trouve que dans le jardin d'Éden, Satan a posé le même genre de questions à Adam et Ève. Il leur a dit quelque chose comme « Comment ? L'Éternel ne veut pas que vous mangiez du fruit de cet arbre ? Mais pourquoi donc ? C'est pourtant le meilleur de tous les fruits du jardin, et si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Je n'arrive pas à croire qu'un Dieu bon pourrait vous interdire de manger de ce fruit. Je ne comprends vraiment pas. » Par de telles paroles et sous-entendus, Satan a réussi à ébranler la confiance de nos premiers parents en l'Éternel. C'est souvent en semant le doute que le diable et les démons attaquent l'homme. Les questions qu'Habacuc pose à Dieu étaient directement liées au contexte de son époque. Les personnes iniques s'enrichissaient grâce à leur méchanceté et Dieu était apparemment indifférent à cette situation. Le prophète demande pourquoi Dieu ne juge pas les impies et permet qu'ils prospèrent. Ces interrogations sont encore d'actualité, car le problème du mal se pose toujours à nous. Nous avons maintenant dans le monde au moins 1 milliard d'êtres humains qui vivent dans la misère noire et une classe de gens tellement opulente que leur richesse est obscène. C'est troublant. Un psalmiste tourmenté par les injustices de ce bas monde écrit « J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance, jusqu'à leur mort ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes, ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains, aussi s'ornent-ils d'arrogance, comme on porte un collier, la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage, plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il ? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste. » Jusqu'au jour où je suis entré dans le temple de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine, et soudain c'est la catastrophe, en un instant ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. » Fin de citation. La vie est bien plus que l'accumulation des richesses et des plaisirs. Surtout que l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur. Comme pour nous faire envie, les masses médias nous montrent en détail la vie de rêve des gens célèbres ou ultra riches. Puis un jour, en moins de 2 secondes et sans commentaire, on nous annonce leur mort tragique. Ces gens qui se donnent aux plaisirs les plus fous ou aux sports les plus extrêmes meurent d'ennui ou se suicident, et cette folie se propage car souvent leurs enfants sont encore pires que les parents à cause des valeurs mondaines qui leur ont été inculquées. Le psalmiste tourmenté conclut en disant « Je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. » Fin de citation. Un autre psalmiste écrit « Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. » Je continue le texte d'Habacuc. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit n'est pas garanti, car les méchants empêchent les justes d'agir, les jugements qui sont rendus sont corrompus. Verset 4. Dans le livre de l'Ecclésiaste, on lit « Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée, les hommes sont portés à faire beaucoup de mal. » Comme Dieu n'intervenait pas pour mettre fin au scandale et au mal, la loi de Moïse, qui était le code dictant la conduite morale et civile des Israélites, était devenue lettre morte. La justice était pervertie. Le droit n'était pas respecté, et c'était le méchant qui, par ses menaces et sa sournoiserie, triomphait dans chaque jugement rendu par les juges. Je continue. « Regardez parmi les nations et observez, vous serez stupéfaits. Vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. » Verset 5. Le prophète qui représentait les justes d'Israël et qui se plaignait à l'Éternel de l'injustice reçoit une réponse, mais elle est adressée au peuple entier. Dieu demande aux Israélites de regarder un peu plus loin que le bout de leur nez et de considérer sur la scène internationale qui, parmi les nations, sera celle qu'il va utiliser pour punir le royaume de Juda. Ils vont être tellement ébahis par la révélation qu'Habacuc est sur le point de recevoir et de leur dire qu'ils en auront la tête qui tourne et ne pourront la croire. Ils vont être stupéfaits parce que le châtiment qu'ils vont subir sera à la fois sévère et inattendu. À ce moment-là, les Israélites verront que l'Éternel n'a pas oublié le mal qu'ils ont commis. Ce châtiment dépassera par sa sévérité tout ce que le peuple et les classes dirigeantes pensaient avoir à redouter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, que j'ai déjà mentionné, cite ce passage et l'applique au peuple de sa génération à cause de leur rejet de Jésus-Christ. Paul n'avait pas une fibre de politicien en lui et n'essayait jamais de gagner les suffrages en parlant la langue de bois, en promettant monts et merveilles et en arrondissant les angles droits. Quand l'apôtre annonce la bonne nouvelle aux Juifs, il leur explique comment Dieu a pourvu au salut de tout homme et il ne l'a pas fait en douce, dans un coin. Au moment de la mise à mort du Christ, des Juifs de toutes les nations étaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Certains crurent en Jésus et colportèrent la nouvelle dans le pays où ils vivaient. Puis, 50 jours plus tard, les Juifs du monde entier se trouvaient à nouveau à Jérusalem pour la célébration de la Pentecôte. Ils étaient présents quand le Saint-Esprit fut donné au petit groupe de disciples, et à ce moment-là, des milliers de personnes, essentiellement des Juifs et des prosélytes, furent sauvés et ajoutés à l'Église naissante. Fort de ces événements qui avaient eu lieu, l'apôtre Paul a menacé ses contemporains en leur prédisant que s'ils ne se convertissaient pas à Jésus-Christ, leur nation serait détruite. Comme les Chaldéens avaient disparu de la scène internationale depuis déjà longtemps, ce serait une autre nation qui accomplirait cette besogne. L'histoire allait se répéter, et s'est répétée, mais en bien pire. La première fois que Judas a été déporté, l'exil n'a été que 70 ans. La deuxième fois, il a duré presque 19 siècles, un temps caractérisé par un antisémitisme persistant, des persécutions cruelles et incessantes, les pogroms et enfin l'extermination systématique du peuple juif par les nazis. Habacuc a demandé « Jusqu'à quand, ô Éternel, toléreras-tu le mal ?» La réponse de Dieu à son prophète comporte la notion de temps, car il dit « Je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. » Ce « en votre temps » est très significatif, car il veut dire que parmi ceux qui sont en vie au moment de la prophétie d'Habacuc, certains verront son accomplissement et donc le châtiment que l'Éternel va faire subir à Judas. Il est vrai que l'ensemble du peuple va souffrir de ce jugement. Cependant, à cette époque, lorsqu'une nation était conquise, les nouveaux maîtres ne dépeuplaient pas le pays, car ils ne voulaient pas qu'il redevienne sauvage, envahi par les ronces et les animaux sauvages. Ils désiraient au contraire que les terres soient cultivées et leur rapportent. Alors ils laissaient une grande partie des petites gens demeurer chez eux et leur donnaient même les terres des classes dirigeantes, les nobles et tout le gratin, qui eux étaient soit massacrés, soit exilés ou vendus comme esclaves. Je continue le texte. « Car je vais faire lever les Chaldéens, peuple rude et impétueux qui s'avancent au large sur la terre pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. » Verset 6. Surprise ! Quand Habacuc écrit, les Chaldéens étaient soumis aux Assyriens et ne constituaient pas une menace pour quiconque. C'est vrai qu'ils avaient essayé à plusieurs reprises de se libérer du joug de leur maître, mais sans succès. Pourtant, l'Éternel annonce haut et fort qu'ils seront les exécuteurs de son châtiment. L'Éternel utilise les passions et les puissances humaines pour accomplir ses desseins. C'est ainsi que pour punir Salomon à cause de son idolâtrie, Dieu lui a suscité deux ennemis. Et le prophète Amos écrit, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Ô communauté d'Israël, je susciterai contre vous une nation qui vous opprimera. » C'est à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ que les habitants de la Babylonie furent appelés Chaldéens. Peuple apparenté aux Araméens, ils s'étaient infiltrés en Babylonie et avaient fourni les dirigeants qui ont ressuscité l'Empire babylonien, comme je disais, au 7e siècle avant Jésus-Christ, grâce en particulier à leur roi Nabopolassar, père de Nabucodonosor. Alliés aux Mèdes, puis aux Scythes, ils avaient rapidement vaincu et conquis l'Empire assyrien, détruit Ninive, leur capitale, puis avaient croisé le fer avec l'Égypte qu'ils ont finalement écrasé à la bataille de Carchemish. Ils menaient des attaques impétueuses et déplaçaient rapidement leurs troupes. Mais cet empire dura moins d'un siècle jusqu'à ce que Cyrus, roi des Perses, s'empare de Babylone. Que ce soit une nation ou un individu, il faut bien prendre garde à ne pas braver Dieu trop longtemps. Un proverbe dit « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit la nuque sera brisé tout d'un coup et sans remède ».